Walid et moi avons rencontré Marine Calmet, avocate de formation, dégoûtée des cabinets parisiens au service des majors de la pollution. Elle s'est détournée des compromissions de sa profession pour s'orienter vers la défense de l'environnement. Fondatrice de l'organisation Wild Eagle, une bande de juristes qui met sa compétence au service de la défense de l'environnement et des communautés de victimes, elle est également membre du collectif Hors de Question, OR, auprès duquel elle a organisé la lutte contre les excès de l'industrie minière en Guyane française. La situation en Guyane, après de longs combats, porte enfin ses fruits. Pourtant, ce n'était pas gagné. Le tribunal administratif de Cayenne avait enjoint l'État français de prolonger la concession pour que 85 tonnes d'or soient extraites par cyanurisation en circuit fermé pendant 12 ans. 15 km² de forêt amazonienne seraient donc rasés alors qu'Emmanuel Macron organisait un One Planet Summit de la biodiversité, que le code minier français était en cours de révision et que le gouvernement français venait de dévoiler son ambitieuse stratégie nationale des aires protégées. C'était l'occasion pour Walid et moi d'évoquer avec elle les conditions de sa profession de juriste de l'environnement et les outils juridiques de la protection de notre avenir, qui passent aussi, on l'oublie souvent, par le droit des autochtones.
Je m'appelle Marine Calmet, je suis avocate de formation et juriste aujourd'hui, spécialiste de la question des droits de la nature et des peuples autochtones. Et je suis porte-parole d'un collectif citoyen qui s'appelle le collectif Hors de Question, qui est un collectif guyanais opposé à la montagne d'or et à l'industrie minière. Et j'ai fondé en 2019 une association qui s'appelle Wild Legal, qui est une association qui regroupe des juristes pour justement la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide. Il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à la question écologique. J'étais un père biologiste à la base, océanographe, donc il m'a éduquée à regarder la nature, l'observer, la respecter, essayer de la comprendre. Et puis après, au moment où en fait, j'ai fait mes études, on commençait à parler beaucoup de la crise climatique, des atteintes à la biodiversité. Et j'étais très intéressée par l'impact que pouvait avoir le droit du coup, sur ces problématiques-là. Donc je me suis engagée dans diverses associations contre le nucléaire, contre les projets d'aéroports, contre les projets miniers. Et donc c'est quelque chose qui est venu progressivement et je me suis formée aussi beaucoup sur le terrain. Du coup, je suis assez autodidacte finalement sur ces questions-là.
Ça veut dire qu'il n'y a pas un enseignement du droit de l'environnement très développé ? Bien, ça veut dire que tu as dû t'adapter à des outils qui sont nés en même temps que la période que tu as vécue.
En fait, le droit de l'environnement, il est en évolution constante. C'est une matière assez récente par rapport, par exemple, au code civil. Et c'est surtout qu'en fait, je ne veux pas me laisser encadrer par ce qui est écrit actuellement dans les lois. Donc je me suis formée et je découvre à chaque fois de nouvelles thématiques. Mais je pense que c'est un carcan. Enfin, ce qu'on apprend à la fac, c'est on nous apprend un cadre, les règles, c'est comme ça, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique. Les règles, elles sont fixées par des humains, donc elles ont une origine, elles ont une raison d'être. Et ce que j'interroge, c'est cette raison d'être et les objectifs politiques qu'on poursuit grâce au droit.
Pourquoi tout à l'heure, en off, tu nous as dit le droit, c'est de la politique. Est-ce que c'est pas un peu, forcé ?
Ah ben non, pas du tout. Le droit, c'est le législateur. C'est écrit par des humains, hein, élus, en l'occurrence. Et par exemple, là, j'ai beaucoup travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat. Même quand des citoyens commencent à faire des propositions, c'est pas toujours très bien vécu par des hommes et des femmes politiques, certains. Et puis, on voit bien que c'est des rouages politiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les mines en Guyane. Le code minier, il a été écrit à une époque où l'objectif était de faire de la mine. Toutes les mines possibles, l'environnement, c'était une question totalement inexistante. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est politique, c'est-à-dire que le droit est l'outil politique qui vous permet de mettre en place des programmes, des règlements, des lois qui s'appliquent à des situations à un instant donné. C'est pour ça aussi que ces lois évoluent en fonction des évolutions politiques et sociales. Et donc, c'est juste une fiction qui sert des desseins politiques.
Bonjour Marie. Est-elle désespérante de voir que la France, qui a vu à la mise en place des conclusions contraignantes lors de la COP21, de transgresser ces dispositions? En parlant de la question surtout de la Guyane et de la Montagne d'Or, et si c'est possible de nous parler un petit peu plus sur le contenu de votre combat là-bas?
En fait, effectivement, il y a 5 ans, il y a les accords de Paris qui ont été conclus et qui devaient nous engager vers une stratégie bas carbone, neutre en carbone si possible dans quelques dizaines d'années. Et effectivement, ça a mis pas mal de temps à rentrer dans les consciences. Entre-temps, effectivement, Montagne d'Or est venu un peu percuter ces belles déclarations politiques. Il nous disait qu'on allait justement sauvegarder l'Amazonie, protéger le climat et la biodiversité. Bon, on se rendait bien compte que sur le terrain, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais je dois dire que depuis quelques mois, il y a quand même des décisions très intéressantes qui sont en train de sortir, et notamment en Guyane française. Donc en juin 2021, il y a une décision intéressante qui est tombée dans le cadre de la centrale au fioul qui devait être construite au Larivo, c'est juste à la sortie de Cayenne, et dans lequel le juge a dit que cette centrale au fioul ne nous permettrait pas d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris et que donc il devait suspendre sa réalisation. Et c'est une des rares jurisprudences en France qui permet en fait de faire appliquer concrètement des textes qui ont trait à la politique climatique française. Et donc c'est très encourageant de voir que le juge commence à s'acculturer à ces questions et à appliquer concrètement, contre des projets polluants, des normes internationales et aussi des normes françaises, puisque les normes internationales et notamment l'accord de Paris sont traduits ensuite dans des programmes, notamment la stratégie bas carbone nationale.
C'est toujours le cas que les présidents et les responsables politiques n'arrivent pas vraiment à implanter cette question ou bien cette culture à l'égard de l'environnement, qu'ils doivent les protéger. Est-ce que le déficit de l'arsenal juridique les laisse faire ce qu'ils veulent ?
Ah bah, là, concrètement, de ce mandat, c'est, je pense, un des pires en matière environnementale. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, zéro. Moi, j'ai vraiment perdu espoir. Ça a été quand même très dur de vivre ce mandat parce que à chaque fois qu'on ouvrait un sujet, en fait, c'était des retours en arrière sur des combats déjà gagnés avant, que ce soit la protection de l'environnement, les études d'impact environnemental, les projets climatiques, enfin plutôt climaticides, l'écocide. Aucune de nos propositions en fait n'a trouvé un écho satisfaisant auprès des ministres et du président de la République. Et donc moi j'attends absolument rien de ce président et de son gouvernement, mais je compte vraiment beaucoup sur la pression populaire et l'action des associations pour faire bouger les choses en fait.
Mais c'est quoi exactement l'écocide ? Elle a une connotation juridique ou bien...
Est-ce que ça a une réalité juridique comme concept ?
Alors, en fait, donc le crime d'écocide, c'est un concept qui est apparu après la guerre du Vietnam, quand justement on a voulu se doter de nouvelles législations internationales pour éviter que ce genre de situation de crise se reproduise. Et donc, c'est en gros un concept qui a émergé dans les années 75, après les années 75, après la guerre du Vietnam, et porté par des scientifiques, des juristes, des personnalités politiques, pour faire bouger les lignes. Et puis, il est en train de s'exporter en France. On en a beaucoup parlé pendant la loi climat. Avec l'association Wild Legal, justement, on s'est engagé auprès de la Convention citoyenne pour le climat pour les soutenir dans leurs travaux et leur donner justement nos travaux juridiques pour leur permettre de réfléchir et de retenir leurs propositions. Et puis, donc, on est arrivé à un texte très intéressant, justement, qui définirait au niveau français l'écocide comme l'atteinte aux intérêts fondamentaux écologiques de notre nation et avec une définition propre. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de définition adoptée au niveau international, puisque l'objectif est de reconnaître en fait l'écocide dans la Cour pénale internationale, enfin dans les statuts de Rome, qui définit le fonctionnement de la Cour pénale internationale, et d'en faire du coup un sixième crime contre la nature.
Pourquoi vous avez par exemple abandonné un prestigieux cabinet d'avocats pour aller en Guyane défendre le droit des peuples ou bien le droit de la nature, je ne sais pas. Ou bien c'est les deux. Ouais, c'est ça.
Déjà, j'avais fait un stage en cabinet d'avocat qui m'avait un peu révélé l'envers du décor. Et quand j'ai eu mon diplôme d'avocate, en fait, j'ai pris la liste des 10 meilleurs cabinets d'avocats. J'ai envoyé mon CV à ces 10 meilleurs cabinets d'avocats. J'ai fait plein d'entretiens d'embauche et je me suis rendu compte qu'en fait, ils défendaient Total, Monsanto, Vinci, enfin voilà. Et donc, ça ne m'a pas tellement donné envie de continuer. Et puis, au même moment, je rencontrais une délégation autochtone qui était guyanaise, qui venait justement sensibiliser l'opinion ici, en métropole, et rencontrer des ministres pour les alerter sur ce qui se passait en Guyane. Et puis, on a échangé. Eux avaient besoin d'un soutien juridique pour leurs revendications. Et moi, j'avais envie de voir autre chose. Et donc, je suis partie avec eux. J'ai trouvé les fonds nécessaires pour... monter un programme avec une association qui s'appelle Nature Rights pour accompagner du coup ces peuples dans leurs demandes. Et je me suis formée, c'est pour ça que je dis, je suis autodidacte, parce que je me suis formée en droit autochtone sur le terrain, en travaillant, grâce au soutien en fait, de mon mentor qui s'appelle Alexis Tchouka, qui est un des leaders autochtones et juristes de Guyane. Et on a fait 4 mois d'apprentissage comme ça, tous les deux, et je me suis formée sur le terrain. Et ça m'a permis, en fait, de... ensuite, l'idée pour moi, c'est évidemment de revenir ici. Enfin, de vivre ici en apportant aussi un éclairage nouveau sur le droit et sur ce qu'on pourrait construire grâce à des inspirations de divers peuples en fait et notamment des peuples de Guyane.
Est-ce que vous trouvez vraiment les fonds nécessaires pour mener ce combat parce que c'est possible que les autres financent leur propagande et tout. Est-ce que alors vous trouvez de votre côté les fonds nécessaires, des fonds innocents si on peut dire, pour mener ce combat?
Oui, bah, en fait on... Il faut dire aussi que moi et dans l'association en général, on est des petits écureuils. Hein. On fait des petites réserves, on ne dépense pas grand-chose. on se débrouille avec ce qu'on a. Et en même temps, on a des mécènes qui suivent ce qu'on fait, qui aiment ce qu'on fait et du coup qui nous soutiennent financièrement, qui nous permettent de faire toutes ces actions avec pas grand-chose, mais en fait ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin en fait, de grand-chose pour faire des choses bien. Et... Mais c'est aussi un choix, c'est-à-dire de rester à une taille qui nous permette d'être utile, flexible et de s'adapter aux situations. Et on a sorti un petit manuel des droits de la nature, qui est un petit ouvrage qui est auto-édité et qui nous permet en fait de faire vivre l'association. Parce qu'en l'achetant, en fait, on fait un don de 10 euros à l'association. Et en fait, ce petit manuel fonctionne très bien et les gens participent du coup de cette manière-là.
Alors, nous aussi, on est des autochtones de France.
Techniquement, on n'est pas des autochtones. Juste pour préciser, la définition d'autochtonie au niveau international, il s'agit de peuples colonisés et réduits à une minorité ethnique survivante, mais qui a précédé la colonisation. Donc techniquement, en France, on n'est pas du tout autochtone, à part peut-être justement, dans les Outre-mer, les peuples qui ont survécu à la colonisation en Nouvelle-Calédonie, en Guyane française. Et certains peuples, comme les Corses, réclament la qualité autochtone, mais étant donné qu'ils sont majoritaires sur leur île, c'est une revendication en fait, très identitaire, c'est-à-dire que le statut autochtone amène aussi une protection particulière dans le droit international, mais qui n'est de toute façon pas respectée par la France. Non, en soi, c'est un sujet très politique, très vaste et très intéressant parce qu'en fait, il renvoie aussi au passé colonial de la France et que ces cultures qui, traditionnellement, en fait, étaient sur notre territoire, je pense aux Bretons, aux Basques et aux autres identités territoriales très fortes, ont été... assimilés, eux aussi, par un pouvoir central qui attendait, après la Révolution française, de canaliser l'identité culturelle des peuples sur notre territoire. Et donc, aujourd'hui, il serait temps aussi de se reposer ces questions, de valoriser des identités multiples, des cultures multiples, des savoirs multiples, parce que c'est ce qui fait la richesse de la France, mais qu'on n'assume pas, en fait, au niveau national.
Quels sont les principaux outils qui peuvent être sollicités pour justifier la réaction au nom du droit à l'environnement lorsqu'une zone est détruite en fait, par des intérêts financiers?
Ce qu'on peut faire en droit environnemental, honnêtement, on n'a même pas aujourd'hui un code de la mine, un code minier qui soit à la hauteur pour faire des choses en France. Alors je pense qu'on n'est vraiment pas bien placé pour donner des leçons à l'Afrique sur ce qu'il y a à faire.
C'était plus quels sont les outils du droit international qui peuvent être sollicités par un avocat qui cherche à défendre une communauté n'importe où?
Il y a énormément de choses. Évidemment, tous les pactes internationaux sur les droits civiques, politiques, sur les droits humains. Il y a aujourd'hui, évidemment, des multinationales qui se retrouvent attaquées en justice. Par exemple, je pense à l'affaire de Shell, qui a été condamnée par un tribunal à La Haye, puisque en fait, le siège principal de Shell est à La Haye.
Shell qui est responsable de la destruction du delta du Niger au Nigeria.
Voilà.
En grande partie responsable.
Selon les rapports justement des Nations Unies, sur certains territoires, on parle de pollution sur 5 mètres de profondeur, des territoires qui ne pourront pas être restaurés, même avec 30 ans d'efforts, et donc des générations entières en fait, qui ne vivront jamais dans un environnement sain. Et donc il était plus que temps justement d'utiliser le droit pour mettre la justice. Mais en fait, le problème, c'est que l'outil juridique, je dis souvent, le juge, c'est l'homme du passé. C'est pour ça que pour moi le droit est politique, parce que le droit doit arriver en amont pour empêcher ce genre de comportement. Il sert à rien d'aller obtenir justice devant les tribunaux quand vos enfants sont contaminés au mercure, empoisonnés par les déchets qui sont autour de votre village, et qu'en fait toute votre vie est impactée. Parce que par exemple dans l'état du Niger, apparemment la durée de vie moyenne est d'à peine 40 ans, donc je ne sais pas si on se rend compte, c'est la moitié de la durée de vie on a nous ici en métropole. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, les outils juridiques sont défaillants face à ce genre de situation. Moi, j'ai pas envie qu'on répare, j'ai envie qu'on prépare l'avenir.
Du coup, est-ce que vous êtes mal vu dans votre profession ? Est-ce que vous avez des soucis avec des menaces, par exemple ?
On a eu pas mal de menaces pendant le combat contre Montagne d'Or, parce que on voulait, les élus en place en Guyane voulaient nous discréditer et nous ridiculiser dans les médias. Donc ça a été assez violent, cette confrontation. Après, heureusement, on a la chance, on est en France. Je pense que si j'avais fait la même chose au Suriname ou au Brésil, ça fait longtemps que j'aurais été enterrée à coups de pelle au milieu de la forêt. Dans la profession, les droits de la nature sont de plus en plus écoutés. C'est-à-dire, même s'il y a 5 ans, on passait franchement pour des oseaux quand on parlait des droits de la nature, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de demandes dans les facultés, dans les universités, dans les écoles même privées, pour donner des cours sur les droits de la nature. Et donc, c'est de moins en moins une folle utopie et de plus en plus une réalité concrète.
Pour rejoindre la question de Walid, un petit peu la forcer, est-ce que ça rapporte d'être avocat dans le secteur de l'environnement ? Est-ce que vous avez un apport peut-être différent, un apport en termes de notoriété ou bien est-ce que vous avez un retour sur investissement ?
Mon moteur, il y a deux choses. D'une part, la colère, parce que je suis très en colère de ce qui se passe et que c'est beaucoup, souvent, je m'attaque beaucoup à des projets qui m'insupportent. Comme Montagne d'Or, c'est-à-dire avec ce Roland de France-Afrique terrifiant, et puis d'autres projets, les bouts rouges en Méditerranée, un projet de pollution, enfin un procès qu'on a monté sur une pollution qui a duré 60 ans. Là, je m'intéresse beaucoup à la question animale, parce que c'est encore une des grandes injustices aussi de ce siècle, c'est-à-dire la manière dont on se comporte vis-à-vis des animaux. Donc moi, je travaille beaucoup à la colère, un moteur, voilà. Mais c'est pas très sain de mettre que de la colère. Donc je travaille aussi beaucoup avec de l'amour. On a une équipe dans Wild Legal qui est que du karma positif, que des bonnes choses, des juristes passionnés, des gens qui font très rapidement bouger les lignes. Et c'est ça ma rétribution, en fait. C'est avoir le sentiment d'un travail bien fait et qui apporte un vrai changement dans notre société. Mais si vous voulez devenir millionnaire, dans ce cas, ne choisissez pas cette voie. Ce n'est pas la bonne.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Walid.
Merci. Merci à vous aussi.